Bonjour, je suis Johanna Kellen, opératrice de Turbine à Bonheur, et je vous retrouve pour un tout nouvel épisode du podcast de Moodstep où nous parlons de savoir-être au travail et notamment comment implémenter toutes les techniques de connaissance de soi dans les équipes. Aujourd'hui, nous recevons Déborah Lins. Nous allons parler de l'énéagramme, qui est une typologie. Retrouvons-la tout de suite. Bonjour Déborah.
Bonjour Johanna.
Comment se prononce ton nom de famille ?
Lins, L-I-N-Z.
Lins. Et du coup, tu as créé Lins Up et je me disais c'était vraiment idéal comme nom.
Mais j'ai trouvé, enfin, à la base, c'était Babouchka. J'ai changé il n'y a pas longtemps parce que j'ai beaucoup réfléchi sur le nom et l'impact du nom dans une société. Et je voulais rendre hommage à mes grands-mères avec Babouchka. Et puis, j'ai beaucoup travaillé sur moi. Je me suis dit que je devais me réapproprier mon propre nom. Et donc, j'ai créé Lins Up Consulting, qui est beaucoup plus, qui est plus moi, on va dire, aujourd'hui en tout cas.
Ok.
Voilà.
Aujourd'hui, on va parler de l'énéagramme. Mais avant de plonger dans le sujet, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire d'où tu viens, quel a été ton parcours ?
Oui, alors j'ai un parcours un peu atypique. J'ai eu énormément d'expériences professionnelles. Je me suis cherchée pendant longtemps. Et puis grâce à un burn-out, je me suis arrêtée et j'ai décidé de suivre des formations. Et au fur et à mesure que j'ai suivi des formations, j'ai commencé à me découvrir. Et puis, en ouvrant la porte de la PNL, j'ai après ça ouvert la porte de l'analyse transactionnelle. Et puis après ça, j'ai découvert l'énéagramme. Et puis, je me suis dit, mais je vais suivre une formation pour être formatrice. Et donc, tout s'est enchaîné. Et c'est vraiment grâce à mon expérience, on va dire, professionnelle d'avant, que j'arrive à être la formatrice que je suis, parce que je travaille dans des domaines vraiment variés, on va dire. Même si je reste dans le management et la communication, mais voilà, on peut me donner n'importe quel, pas n'importe quel, mais en tout cas, on peut me donner beaucoup de sujets. Je serais ravie de pouvoir explorer en tout cas chaque sujet, parce que j'ai eu l'occasion de travailler dans beaucoup de choses, et j'ai été manager aussi dans certains cas d'une entreprise de tarte, par exemple. Et ça m'a beaucoup appris. J'ai travaillé dans un casino aussi et ça m'a beaucoup appris. Donc voilà, j'ai une expérience.
Tu as été présentatrice aussi, je crois ?
Oui, j'ai été présentatrice sur MCM, au tout début d'MCM en Belgique. Et j'ai fait beaucoup de radio aussi. J'ai adoré et j'adore ce média qui est la radio.
Ok. Et comment t'en es venue à découvrir l'énéagramme alors ?
Alors ça, c'est parce que donc, j'ai fait cette formation en programmation neurolinguistique. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, écoute, viens, on va à Paris, on va tester un module ensemble. On va voir ensemble qu'est-ce que tu en penses. Au début, voilà, c'est comme ça que je l'ai découvert. J'ai été vraiment au centre, on va dire, je cherche mes mots, mais c'est vraiment à l'origine de l'enseignement de l'énéagramme. J'ai été chez Eric Salmon à Paris, où on enseigne l'énéagramme via la tradition orale. Et ça, c'était important pour moi. Je trouve ça gai de pouvoir écouter les gens et avoir des témoignages aussi. Voilà, c'est comme ça que je suis arrivée à la découverte de cet outil qui, j'avoue, me passionne de plus en plus, de jour en jour. J'apprends plein de choses. Je suis, à chaque jour, je suis étonnée par la découverte de cet outil.
Qu'est-ce qui définit ces personnalités ? Est-ce que, j'ai lu notamment dans ta présentation, que ça aide à prendre conscience de nos mécanismes relationnels. Est-ce que ces typologies, on pourra tout à l'heure peut-être en explorer quelques-unes, est-ce que ces typologies sont basées sur leur type de communication ?
Alors, ta question est très intéressante. En fait, la typologie de chaque type, en fait, on est à la base tous les types. Les 9 types. D'accord. Il se fait que dans notre histoire familiale, on a développé un type en particulier. Mais à la base, on a les 9 types. Donc l'objectif dans l'énéagramme, c'est de pouvoir finalement, puisque c'est un diagramme, c'est de pouvoir se mettre au centre, d'observer les 9 types de personnalité et de voir en les regardant que tout va bien et que je me sens à l'aise avec chaque type. Ce qui n'est pas le cas, puisque on a tous des conflits d'une manière générale avec des gens. Je veux dire, on n'est pas Bouddha, donc voilà.
Mais du coup, on développe ces types prédominants avec notre histoire ou bien on naît comme ça ?
Alors, à la base, On est dans l'inné, c'est-à-dire qu'il y a un type en particulier qui nous correspond, qu'on a mis en place dès le début de notre vie, on va dire même intra-utérine, mais ça, je ne vais pas en parler. Et donc, on développe dans le lien avec la mère un type. Et une fois qu'on a développé ce type, il se fait que ça nous arrange bien, donc on se sent dans une zone de confort. Je vais prendre un exemple, le type 8, c'est le chef. Le fait qu'il se sente, évidemment déjà il a un nom prédominant, le fait qu'il se sente chef, il se sent fort, il est associé au lion, il a beaucoup de charisme, même quand il n'a pas envie de faire du bruit, il fait du bruit, donc quand il ferme une porte, tout le monde l'entend. Voilà, il a développé on va dire, ce type, cette personnalité au fur et à mesure de sa vie, mais c'est dû à quelque chose. Et ce qui est intéressant dans l'énéagramme, c'est que on travaille, si on regarde un iceberg, on a évidemment le dessus de l'iceberg et en dessous de l'iceberg. Et nous, on travaille beaucoup le en dessous de l'iceberg. Donc, c'est quelles sont mes motivations dans ma vie, les motivations inconscientes qui vont faire que j'agis de telle manière ou de telle manière. Voilà, ça c'est important. Après, il y a mon comportement, pourquoi je suis froide et distante avec mon patron, alors que dans le fond, ben, peut-être que je suis très timide et que j'ai très peur. Et voilà, je montre des aspects de moi qui ne sont pas spécialement moi, en fait.
Ok, donc le but de l'énéagramme, c'est de repérer quel type on est. Quel est l'intérêt, à quoi ça va nous amener, nous aider à faire?
Alors, surtout, ça va nous aider à prendre conscience de nos mécanismes récurrents. Et ça, c'est la chose la plus importante. Qu'est-ce qui fait que je me retire, par exemple, donc je suis manager dans une grande entreprise et mon bureau est au dernier étage et j'ai deux secrétaires avant de pouvoir arriver pour qu'on me parle. Donc, c'est vraiment comprendre qu'est-ce qui fait que cette personne a besoin de ça pour être dans une zone de confort. Et quand elle comprend qu'en fait, c'est pas du tout une zone de confort, mais plutôt elle met beaucoup d'énergie à ce qu'il n'y ait pas d'intrusion dans sa vie, quand elle a compris ça change les choses. Donc, c'est vraiment comprendre quel est mon fonctionnement. Moi, j'adore dire. Et j'espère qu'on m'en voudra pas en disant ça. L'énéagramme, pour moi, c'est comme un kit Ikea, quoi. Si je veux monter un meuble, je vois le mode d'emploi, je comprends comment ça fonctionne. Si je suis tout ce qu'il est écrit sur mon plan, eh bien, je vais arriver à monter mon meuble. Et ça me permet donc de mieux me comprendre, de mieux interagir avec les autres, d'être plus en phase avec moi-même aussi, et surtout d'évoluer. D'évoluer dans le sens où, à partir du moment où je découvre de quel type de personnalité je suis, c'est grâce aux questions, c'est grâce à l'interaction que je peux avoir les autres que je vais encore évoluer. Et surtout, ce que j'aime beaucoup dans cet outil, c'est qu'il existe des panels et les panels permettent aux gens de se retrouver. Donc, on se retrouve tous ensemble, tous les types, donc de 1 à 9. Et on va travailler, par exemple, sur un type qui est le type 7. Et on va poser des questions. Donc, l'enseignant, le formateur va poser des questions à tous les types 7. Et puis après, ils vont répondre. Et puis, le public va pouvoir poser des questions. Et c'est très intéressant parce que plus on se découvre, plus on ose être soi-même. Et ça, c'est la chose, je pense, la plus importante, c'est être soi-même.
Juste pour clarifier, les panels, c'est in vivo, c'est en personne.
Oui, c'est-à-dire que on se retrouve
Ça
dans
se
une.
passe où? Ça se passe où et comment on peut savoir où aller?
Oui, alors en tout cas à Bruxelles, il existe donc ceux qui enseignent l'énéagramme organisent des panels et ça se passe dans une salle où on est plusieurs. Donc il y a un enseignant formateur qui va poser des questions à des personnes qui sont là en vrai et donc il y a un public aussi et donc le public va pouvoir interagir avec les gens avec qui on a choisi par exemple le type 7. Eh bien, ce sera une soirée du type 7 et on va poser plein de questions sur ce type. Pardon, sur ce type-là.
Comment est-ce qu'on découvre son type?
Alors, c'est une question très importante. Comment on découvre son type? C'est par des formations où la personne qui transmet l'énéagramme a été certifiée. Moi, je trouve que c'est quand même important. Donc, on est dans une formation, on donne la théorie, et au bout de ces 2 jours de théorie, on pose des questions aux gens. Alors, soit ils découvrent leur type parce qu'ils se connaissent bien, soit ils ne découvrent pas leur type, parce qu'il y a des choses qu'ils ne connaissent pas d'eux-mêmes. Tout le monde ne se connaît pas bien. Donc, en général, c'est en formation. Et c'est vraiment par le questionnement. Et ce qui est très important, c'est que la personne va elle-même se situer dans un type et c'est pas le formateur qui va dire tu es ça, tu es ça, tu es ça. C'est à la personne de réfléchir si elle ne sait pas où elle se situe, où elle se situe, par des questions. Et le formateur va évidemment accompagner la personne pour trouver son type. Mais c'est vraiment très important de prendre la responsabilité de choisir où on a envie de se situer. Quand j'ai commencé l'énéagramme, je m'étais située dans le type 1 qui est le perfectionniste et en fait, ce n'était pas du tout ça. Donc voilà, c'est qu'il y a des choses que je ne voulais pas voir de moi et c'est vrai, il y a beaucoup de choses que je n'avais pas envie de voir de moi en fait.
Au quotidien, quand fais-tu de l'énéagramme dans ta vie quotidienne? Est-ce que tu l'utilises pour reconnaître les types chez les autres et adapter ta méthode de communication par exemple?
Alors, au quotidien, donc d'abord, ça a changé ma vie. Ça, c'est quelque chose d'important parce que j'avais cherché des outils, parce que je me posais beaucoup de questions. Donc, ça a changé ma vie dans le sens où j'ai pris conscience de comment je communiquais, de comment je fonctionnais. Et donc, oui, je l'applique au quotidien parce qu'il y a des fois où je vois, par exemple, quand je fais trop de choses, je suis un peu... J'ai beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme, et donc je fais beaucoup de choses. Et je me suis rendu compte que ce beaucoup de choses, c'était dû à qui je suis, à mon énergie, et donc je ralentis pour justement ne pas rentrer dans un burn-out. Donc c'est vraiment, j'arrive à doser les choses, que ce soit dans ma communication personnelle, que ce soit aussi dans la manière dont j'enseigne ou que je sois comme formatrice, le fait de connaître mon type permet aussi de mettre un cadre très facile. Dans mes coachings, j'explique souvent que je suis rentre-dedans et que ça peut aussi ne pas plaire à l'autre. Mais c'est important pour moi de pouvoir le dire parce que c'est mon fonctionnement. Donc, je me connais vraiment bien et je peux être en relation, en tout cas avec les autres, aussi bien dans ma vie privée que dans ma vie professionnelle, assez authentique. Et j'avoue que ça me détend beaucoup.
J'ai une amie qui fait de l'énéagramme et un jour, j'avais un conflit.
Oui.
Et elle a utilisé l'énéagramme. Alors, j'avais déjà rencontré avant d'autres personnes hein, qui m'avaient parlé de l'énéagramme en me disant « tu es tel type, tu es tel type ». Bon, ça ne m'avait pas plus parlé que ça. Par contre, cette amie a utilisé l'énéagramme pour m'expliquer ma relation avec cette personne et ce que j'avais à presque aller chercher chez l'autre. Aller chercher dans... En fait, c'est comme j'avais l'impression que c'était comme si l'énéagramme se faisait aussi en miroir les uns avec les autres et qu'en fin de compte, le type de l'autre vient aussi nous parler de nous.
Oui, c'est-à-dire que par rapport à ce que tu dis, c'est très important que les personnes qui sont en face de nous reflètent des choses que nous avons en nous et il faut les travailler. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai en face de moi quelqu'un qui m'énerve, qui m'agace, et je dis souvent ça me gratte, ça veut dire que je vais aller travailler chez moi et pas chez l'autre ce qui me gratte et ce qui m'ennuie, tout simplement.
Tout d'un coup, ça devient complémentaire de la communication non violente, j'ai l'impression, où on se connecte à son besoin et on le résout en nous plutôt que d'aller l'exprimer auprès de l'autre.
Totalement, et je pense vraiment que la manière dont on communique une fois qu'on connaît son type va vraiment permettre de développer ça, de pouvoir avoir d'autres outils en fonction de son type pour pouvoir soit s'ouvrir, soit se taire un peu plus. C'est vraiment ça permet vraiment de pouvoir identifier son fonctionnement et surtout d'avoir envie de... Je ne dis pas de changer, parce qu'on ne change pas, mais en tout cas d'évoluer. Et l'évolution, elle est magnifique. Je veux dire, je le mets en place avec mes amis, puisque j'ai une communication particulière, et ça donne une dynamique amicale assez exceptionnelle, en tout cas, moi, je trouve.
Alors après, le sujet, c'était améliorer les performances de son équipe grâce à l'énéagramme. Oui. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur l'énéagramme, c'est quand même complexe. On ne rentre pas dedans comme ça en un clin d'œil, il faut vraiment s'investir, apprendre à se connaître. Comment on peut mettre en place ça dans une équipe? Ça me paraît quand même des barrières à l'entrée assez importantes.
Alors, j'ai envie de te poser comme question, quelle barrière? Parce que à partir du moment où les gens dans une entreprise ont envie de développer des choses d'une manière positive et qu'ils mettent l'énéagramme, les barrières vont tomber assez vite. Ça demande une ouverture, ça c'est
Donc,
sûr.
mais ça demande quoi en investissement de temps, par exemple?
Tu veux dire au niveau...
Pour chaque personne de rentrer, de comprendre de quel type elle est, puisque tu as dit que ça se faisait en séminaire.
Oui.
Combien de temps je vais investir voilà, pour une personne pour qu'elle maîtrise suffisamment bien l'énéagramme pour que ce soit une ressource pour elle?
Alors, je ne vais pas parler en termes de personnes puisque je transmets l'énéagramme dans des groupes, dans les
D'accord.
entreprises. Donc, on prend un groupe. On prend un groupe et puis c'est 2 jours de formation, de base, juste la base, parce qu'après il y a plein d'autres choses. Je ne suis pas rentrée dans les détails de tout parce que ça demande, voilà. En 2 jours, la personne comprend déjà pas mal de choses. Donc en plus, il y a des interactions entre le groupe, il y a des jeux, il y a des dessins, ils doivent parler d'eux. Donc il y a plein de choses qui se mettent en place. Alors ce qui est intéressant ici, et que j'ai envie de dire, c'est que en général, parler des problèmes personnels ou relationnels dans une équipe, c'est toujours très compliqué. Ici, le fait de mettre un chiffre quelque part, on peut se cacher derrière, tu vois. Donc, ça ouvre aussi beaucoup de possibles et de liberté de dire les choses aux gens. Moi, je constate que j'ai donné des formations sur 4 semaines, donc chaque fois une journée, ça éveille les gens et ça les ouvre d'une manière exceptionnelle. Donc, changer sa manière de se voir pour pouvoir être en relation avec l'autre, c'est quand même intéressant et ça évite les conflits, en tout cas.
Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur l'énéagramme?
Mais en fait, il y a tellement de choses à dire que j'avoue que moi-même, je suis perdue devant l'immensité parce que d'habitude, je travaille avec du visuel, donc là, on est dans l'auditif, et c'est un peu même stressant pour moi parce qu'il y a trop de choses. C'est-à-dire que dans le sens où on parle des centres d'intelligence, on parle des émotions, on parle des interactions avec les flèches. Il y a tellement de choses à dire, mais la chose pour moi qui est principale, parce que c'est ce que j'entends beaucoup et qu'on me dit souvent, c'est oui, mais il existe le MBTI, il existe ça comme outil. Hein. Nous, on veut pas parfois utiliser l'énéagramme justement parce qu'ils ont peur de rentrer dans quelque chose de trop personnel. Je pense que les entreprises qui peuvent ouvrir leur cœur, et c'est comme ça que je le vois par rapport à l'émotionnel, à partir du moment où ils acceptent de pouvoir ouvrir cette partie-là, il y a un changement qui va se mettre dans l'entreprise. Et pour moi, c'est très important. C'est important que les gens puissent être heureux dans leur travail. J'ai été à des conférences sur le bonheur. Là, tout le monde parle du bonheur au travail. Mais comment être heureux au travail si on ne se connaît pas? Comment être heureux au travail si je ne peux pas et si je n'ose pas dire comment je fonctionne? Donc voilà.
Peut-être j'ai envie de finir avec une question, c'est justement si donc on ouvre cette porte de l'émotionnel, est-ce qu'il y a des risques? Est-ce que ça n'ouvre pas vers plus de questions et des remises en question trop profondes, par exemple?
Oui, j'ai envie de dire en quoi le fait de se remettre en question n'est pas quelque chose de positif parce qu'on est 5 jours sur 7 dans son entreprise. Pourquoi il y a des burn-out? Pourquoi les gens n'en peuvent plus? Pourquoi? Moi, c'est ça la question que je me pose. Moi, je trouve que aller dans son entreprise en étant optimiste, souriant, c'est parce que je me connais, parce que j'ose dire à ma collègue quelque chose de très important quand il y a quelque chose qui ne va pas. Alors oui, je peux mettre la communication non violente, je peux mettre la méthode Gordon, je peux mettre plein de choses en place, mais si moi je suis en accord avec moi-même, quand je rentrerai le soir chez moi, je ne serai pas dans une angoisse, je me sentirai bien, enfin je me sens bien. Et même en tant que formatrice, voilà, en tant que formatrice, j'ai 15-20 personnes devant moi qui me confrontent. Si je ne me connaissais pas, comment je fais pour gérer ça? Donc, je pense que l'évolution de la société, en tout cas c'est mon point de vue et c'est mon ressenti, à partir du moment où j'arrive à équilibrer ce qui est dans ma tête, ce qui est dans mon cœur et ce qui est dans mon ventre, ce qui est les 3 centres d'intelligence et il y a 3 types d'intelligence, le mental, l'émotionnel et l'instinctif, et bien une fois que j'arrive à connecter ces 3 états-là, Moi, je pense que c'est ça le bonheur. Je pense qu'on est vraiment avec de la méditation, avec de la bienveillance. Il y a beaucoup de choses à mettre en place pour pouvoir être heureux au travail. Mais pour moi, l'Ennéagramme fait partie de ça. Il y a un énorme groupe en Belgique qui s'appelle Colruyt qui utilise l'Ennéagramme. Et j'avoue que c'est un magasin où tout le monde va. Les gens sont très sympathiques et très agréables et ça fait du bien. Enfin, moi, je trouve ça chouette.
Je vais te faire une confidence. Je discutais avec le président d'une fédération de coaching et je lui ai posé la question, si je devais me former, si je devais prendre une seule formation, ce serait quoi? Et il m'a dit l'Ennéagramme.
Oh, je suis. Alors là, Johanna, you make my day. Moi, je suis comme en politique, je suis vraiment je suis passionnée par cet outil. Et je vais te faire une confidence aussi, donc je ne sais pas si c'est en off ou pas, mais c'est très complexe de l'amener aujourd'hui, en tout cas en Belgique. Les gens ne sont pas prêts à changer, mais ils sont prêts à mettre le bonheur dans leur entreprise, mais ils ne sont pas prêts à changer la racine. J'ai pas parlé des blessures d'enfance parce que pour moi, on parle de l'entreprise, donc voilà. Mais ça fait partie, quand on comprend quelle est sa blessure d'enfance, on comprend comment on fonctionne sans devoir aller chez un psy et on arrive à se connecter avec les autres d'une autre manière. Donc voilà, je pense que Jung s'est inspiré de l'ennéagramme. C'est impossible d'avoir créé les styles sociaux sans avoir connu l'ennéagramme. Ça, c'est pour moi, c'est une évidence.
Je te propose de
Oui.
passer au questionnaire.
Moi, je me suis préparée. Hein,
Et quand
pour
je
le...
dis ça, je lève mon stylo. Je fais quelque chose d'assez solennel. Je ne sais pas si tu réalises.
Non.
Bon, première question.
Oui.
Est-ce que il y a une erreur ou est-ce que tu as eu un échec dans ta vie qui t'a beaucoup appris?
Alors pour être très honnête, j'en ai eu beaucoup. J'en ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est qu'aujourd'hui que je me rends compte que c'était des cadeaux exceptionnels. Et il y en a un en particulier qui a changé ma vie et qui m'a mis dans une situation assez complexe, mais c'est pas grave. C'est que j'avais mis, en tant que formatrice, j'avais mis au tout début de ma carrière mes œufs dans le même panier, donc j'avais un ou deux fournisseurs, on va dire, de formation, et ils ont perdu en même temps des appels d'offres, donc j'ai plus eu de boulot, ce qui a été quand même quelque chose de très difficile pour moi, et donc j'ai compris grâce à ça que je devais vraiment être constamment dans la recherche de nouveaux clients, de faire de la prospection, de faire du marketing, de créer des choses un peu différentes. Voilà ce que ça m'a apporté. Mais j'ai dû vraiment avoir ce petit électrochoc. Et je pense aussi que c'est dans les difficultés qu'on apprend le plus et qu'on se centre le plus et que c'est la chose la plus importante. Parce que je ne dis pas qu'on n'apprend rien dans le bonheur, mais voilà, je crois que c'est en étant un peu, en tout cas moi, en étant un peu malheureuse que j'ai appris beaucoup, en tout cas.
Ok, deuxième question.
Oui.
Alors, attention,
Oui.
hormis l'énéagramme, quelle technique ou outil t'a le plus fait avancer personnellement ou professionnellement?
Alors, il y a un outil que j'adore qui s'appelle le cadran d'Hoffmann. Je ne sais pas si tu connais. Donc, c'est un.
Je l'ai peut-être vu, mais non, le nom ne me dit rien.
Oui, donc c'est un cadran très simple où on demande en général à la personne quelle est sa qualité fondamentale, quel est son piège, quel est son défi et quelle est son allergie. Et au travers ce cadran, moi j'ai mêlé d'autres choses en plus. Donc on arrive vraiment à déceler chez la personne que son allergie, et je vais faire un lien avec l'énéagramme. Donc par exemple, moi je suis assez dynamique, c'est ma qualité fondamentale. Mon allergie, en fait, c'est la passivité. Donc je déteste les gens mous. Et grâce à l'énéagramme, j'ai découvert qu'en fait, moi-même, j'étais molle. Et ça a été quand même quelque chose de dingue. Donc, je m'octroie aujourd'hui je me donne en tout cas la permission de pouvoir être molle. Et c'est très bizarre. Mais donc, c'est intéressant, cet outil est très, très intéressant. Et puis, il y a au niveau aussi du conflit. On peut l'utiliser. Il existe aussi le double cadran d'Hoffmann. C'est vraiment un outil très, très riche, assez simple d'utilisation, que j'aime beaucoup. Voilà.
Et en fait, tu as mentionné quelque chose dans ta réponse qui était une question que je voulais te poser, mais je me suis dit qu'on n'avait plus le temps. Donc là, c'est
Oui.
comme une perche, donc je la saisis. Je vois que tu crées des outils
Oui, alors je crée des outils, j'ai créé un jeu de cartes et puis j'ai
Bon,
créé
c'est quoi
un...
ton jeu de cartes, c'est quoi?
C'est très simple, c'est des mots et des images. Et dans le coaching, c'est vraiment facile, mais j'ai choisi des images particulières. J'aime que les gens sortent un peu de leur tête pour aller dans la créativité. Et donc, souvent, les gens dans le coaching, quand ils voient une carte, ils arrivent à dire des choses qu'ils ne me disent même pas dans 3 ou 4 séances. Donc, j'aime beaucoup utiliser la créativité. Et donc, j'ai créé un parcours de coaching avec l'énéagramme où je pars d'un questionnement et puis j'ai mis plein d'outils que j'ai rencontrés et donc c'est une sorte de chemin. La personne fait, c'est comme si elle était dans la forêt, puis elle s'arrête à un arbre, elle se pose des questions, puis elle continue. Et c'est un outil qui, en tout cas moi, a réveillé, d'abord parce que je l'ai fait sur moi, donc ça a réveillé des choses chez moi, mais les gens sont en transmutation, comme je dis, en transformation, et c'est assez intéressant, je trouve. Voilà, donc c'est un parcours avec de l'analyse transactionnelle, le cadran d'Hoffmann, un peu de PNL. J'ai fait un milkshake de plein d'outils et surtout j'ai laissé. Donc c'est pas du tout psy, on est vraiment dans le moment présent et dans le futur. On travaille vraiment ça, on est dans le présent et dans le futur.
Quelle est selon toi la qualité primordiale à développer pour être un bon manager?
Est-ce que je peux en donner plusieurs?
Ah là là, il y a toujours des tricheurs.
Non, 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 mais
Allez!
alors, non, 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 non. Alors, écoute, moi, j'ai travaillé cette question sur les trois choses importantes dans l'énéagramme, c'est-à-dire les trois centres d'intelligence. Je pense que pour être un bon manager, c'est impossible d'avoir une seule chose. Donc,
Donc il faut donner les trois.
pour moi, il faut donner les trois. La première, mais en tout cas, si je devais en choisir une, je dirais se connaître.
Ouais.
Parce que si je ne me connais pas, je ne peux pas mettre de limites, je ne peux pas être cadrant. Enfin, c'est très important de se connaître. La deuxième chose, c'est pour moi être tourné vers l'autre et être attentif à l'autre dans l'écoute et dans l'accompagnement et dans l'aide, en connaissant ses émotions. Et puis la troisième chose qui est importante, c'est évidemment avoir une vision claire, mais avoir de l'instinct et développer son instinct dans le relationnel. Et je dirais pour couronner le tout, il faut qu'il soit sportif. Parce que je pense.
Eh, mais c'est l'homme idéal là que
Est-ce qu'un manager. Enfin, c'est un manager idéal en tout cas. Parce que pour moi, le sport fait partie vraiment d'un équilibre mental. Et dans l'entreprise, et la méditation maintenant arrive, donc c'est super. Mais le sport doit faire partie pour moi d'un bon manager. Voilà, ça c'est comme ça que je le vois. Une chose n'était pas possible, donc j'en ai mis trois.
Magnifique. Quel livre conseillerais-tu à la lecture, un livre qui t'a marqué récemment, ou d'ailleurs, ou il y a plus longtemps, si tu veux?
Oui, alors il y en a plusieurs et il y en a un en particulier, mais c'était
Tu
il
me
y a longtemps.
refais le. Il y en a plusieurs, il y en a
Non, non,
trois
non,
donc.
non, 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 non. Alors, c'est Deepak Chopra, l'âme du leadership. Ça s'appelle, donc c'est Libérer votre potentiel de leader. Je trouve ça intéressant parce qu'il pratique la méditation, parce qu'il a une vision du monde particulière. Il y a des choses intéressantes à prendre dedans. Voilà, je trouvais ça
D'accord.
vraiment. Il y en a un, hein, voilà, c'est tout.
C'est vrai, bah alors je suis déçue. J'en
Mais
ai
non,
qu'elle allait
mais
en
j'ose.
avoir plusieurs.
Non, j'en ai plein, mais j'ose pas dire parce que
Je te
c'est
fais
y a...
peur, hein. Je fais peur. Je sais que je fais peur.
non, 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 mais il est spirituel et comme c'est spirituel, parfois voilà, c'est un peu.
Oui, bah oui. Et puis en France, encore moins bien accueilli que dans d'autres pays. Donc je comprends.
Voilà.
Quelle citation pourrait... Ah, encore une citation qui t'inspire.
Alors, personne ne peut être plus généreux à votre égard que vous-même. Personne ne peut avoir un plus grand impact sur vous que vous-même. C'est-à-dire que vous seul êtes en mesure de tout mettre en œuvre pour votre bien. Et c'est Dzigar Khöntrül Rinpoché qui a dit cette phrase. Et j'aime beaucoup cette phrase par rapport à la responsabilisation et l'autonomie de chaque être. Parce que c'est. Il n'y a personne d'autre que nous qui pouvons faire les choses au fond nous-mêmes ou les changer ou évoluer. Voilà, je parle vraiment de l'intelligence émotionnelle et de soi, tout simplement.
Où est-ce qu'on peut te retrouver, Déborah, si des gens écoutent cette émission et ont envie de te contacter, que doivent-ils faire?
Eh bien, c'est très simple. Il peut venir à Bruxelles.
Et
Non, c'est pas
toquer à
vrai.
ta porte.
Voilà, je me déplace également dans le monde entier. J'ai un site internet Lindsup Consulting.
Que je mettrai en lien dans la description de ce podcast.
Voilà. Et puis, s'ils viennent à Bruxelles, je fais également une conférence le 17 novembre dans un endroit très sympathique à Bruxelles. Et tout est sur mon site. Et je parle de l'énéagramme, justement, et du management ce jour-là.
Fabuleux, tu as l'air vraiment passionné par le sujet, ça fait plaisir à entendre des gens qui sont porteurs comme ça de leur passion, c'est très beau. Je te remercie de nous avoir accordé du temps, d'avoir partagé un petit bout de tes connaissances.
Merci, merci à toi Johanna pour tes questions. Et voilà, merci beaucoup. Vraiment, ça m'a fait très plaisir de pouvoir parler de cet outil que j'aime tant.
Il est très intéressant ce sujet de l'énéagramme. Je viens justement de recevoir un livre des éditions Le Duc. Merci les éditions Le Duc. Sur le sujet. Donc je pense que je vais approfondir. Il pourrait y avoir d'autres interviews audio. Et j'ai également une interview vidéo dès qu'on aura réussi à caler nos agendas avec un enseignant de l'énéagramme qui habite dans le Morbihan. Donc ça, ce sera à suivre sur le blog Moodstep, moodstep.com. Et n'oubliez pas de noter, de laisser des petits commentaires sympas sur la chaîne iTunes de ce podcast. Ça me fera extrêmement plaisir. Je vous souhaite une excellente semaine.